Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Microsoft, d'une nouvelle console portable, comme des coms de la semaine dernière. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était le numéro 100. C'est donc l'émission 101. Hein. On va pas commencer à les compter, mais quand même. Alors, on a des infos sur un projet. C'était un doute. On s'en doutait peut-être sur le projet de Mathieu Kassovitz. Red Steel 2, Monsieur Fall, comme chaque semaine, la minute culturelle, le grand retour et les jeux violents en Suisse qui on sait pas trop ce que ça va devenir, mais c'est assez inquiétant, et ce sera tout pour cette semaine. Mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Elio de Regamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Alors on commence avec toi Clément, avec plusieurs
avec
choses,
quelques infos venant de la planète Microsoft. Alors la première, on sait que l'E3, vous le savez, c'est la grand-messe du jeu vidéo qui a lieu aux États-Unis. Donc là, elle aura lieu, comme d'habitude, cette grand-messe en juin, du 15 au 17 juin prochain. Et l'habitude, c'est pour les constructeurs, c'est de faire donc une conférence avant l'ouverture, ouais, l'ouverture du salon.
Et quelques éditeurs aussi, par ailleurs.
Hein. Oui, mais il y a trois grosses conférences.
Trois
gros constructeurs qui annoncent un peu tout. Et donc, on sait que cette année, il n'y aura pas une conférence de la part de Microsoft, mais deux. Et en fait, apparemment, d'après les premiers échos, donc là, il y aura la classique, et l'autre, celle qui vient en plus, est consacrée à Natal, en
d'accord,
fait. Et donc, ça prouve vraiment leur volonté que le Project Natal soit vraiment une offre à part, et en tout cas, qu'ils veulent le marketer différemment.
Et surtout, il faut pas oublier que une conférence à l'E3, c'est aussi l'assurance d'une couverture presse média
mondiale,
monstrueuse.
Total.
Donc, en fait, t'en fais deux, bah, t'as deux fois plus, quoi. Donc,
exactement.
Ça coûte cher, hein, d'organiser une conférence, mais c'est assez vite rentabilisé, sauf quand on arrive à foirer, comme en 2006, je crois.
Chaque année, il y a un constructeur qui foire une conférence, hein, d'habitude. Ouais. Et donc là, justement, ce serait la première, elle aurait lieu le dimanche 13 juin.
Voilà. D'accord.
Et alors, pour rester sur Natal, la semaine dernière, un journaliste qui est à ma droite avait...
Sans donner de nom.
Non, effectivement, il y avait une info qui venait de Microsoft selon laquelle il fallait 4 mètres de recul sur 4 mètres de large, sur 2,70 mètres de hauteur pour jouer à Natal.
C'était assez rigolo comme news.
C'est assez rigolo, et en fait, bah, ça a été vite démenti. Donc, il y a eu un damage control, comme on dit, de la part de Microsoft qui est vite...
C'est quand même sourcé de Microsoft. Hein. C'est un porte-parole de Microsoft qui avait été cité dans MCV. Microsoft, donc, voilà.
Et on pourrait peut-être dire un ex-porte-parole.
Voilà. Et donc, qui a annoncé qu'effectivement, dans nos petits appartements, dans nos petits salons, on pourrait quand même jouer de manière optimale à Natal. On attend de voir.
Tu veux dire que j'ai cassé le mur de ma cuisine pour rien, quoi. C'est ça?
Voilà.
Exactement.
Cool. Dommage.
Et enfin, dernière toute petite news, il était temps que Microsoft se mette au goût du jour, on va dire. Aujourd'hui, en fait, on ne pouvait utiliser que le disque dur intégré à la console, qui coûte assez cher si on les remplaçait pour stocker ces données. Et là, donc, à partir du 6 avril prochain, donc très bientôt, on pourra enfin utiliser les ports USB de la console pour brancher soit une clé USB, soit un disque dur USB pour donc stocker ces données.
Donc okay, les cartes mémoire, c'est fini en fait. Les cartes mémoire,
oui,
Xbox,
c'est quasiment mort. Alors après, ils sont pas très très cool non plus parce qu'ils limitent la taille par port USB à 16 gigaoctets.
Ouais, c'est-à-dire que l'idée du disque dur externe de 1 Tera à côté.
Il aura que 16 gigas qui pourront être alloués. Mais bon, c'est quand même pas mal parce que notamment pour ceux qui ont un petit disque dur, qui ont une première console
comme,
Xbox.
Comme nous deux,
ouais, voilà. ça va nous aider quand même pas mal. Voilà, du côté de chez Microsoft.
Alors, Patrick, c'est quoi ce
alors,
truc, nouvelle
grosse,
console?
Grosse rumeur cette semaine, c'est une rumeur qui me tient à cœur parce qu'on va parler de marques qui sont mythiques dans le jeu vidéo, qui pourraient faire un grand retour très prochainement. C'est une rumeur très persistante sur une prochaine console, donc qui serait développée en partenariat entre Amstrad, donc on se rappelle tous Amstrad, les constructeurs micro des années 80 qui ont fait un carton, et moi j'ai commencé
alors,
sur ces bécanes-là.
Patrick, excuse-moi, mais ne pleure pas surtout en...
Non, je pense que retour d'Amstrad qui travaillerait sur un projet de console avec Gizmondo. Vous vous rappelez de cette bécane Gizmondo qui est sortie il y a quelques années
de façon
très élitiste.
Qui était sortie juste,
en Angleterre.
C'était cette console, voilà, qui voulait concurrencer la PSP, la DS.
Alors donc, c'est deux larrons. Donc, Amstrad et Gizmondo travailleraient sur une nouvelle console portable. Qui serait on n'a pas tous les détails sur le hardware de la bécane. On sait juste que la console embarquerait en mémoire l'intégralité du catalogue de jeux Amstrad.
En ROM
intégré. Donc on parle quand même de centaines, voire de milliers de jeux. Alors, avec une scène.
On voit une petite larme.
Une scène de jeux fabuleux qui nous ont
alors,
tous marqués.
Alors, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si vous entendez Patrick bégayer là, parce que là il est.
Ah bah moi, c'est
voilà, trans,
ça fait des années que j'attends une news comme ça. Donc le retour d'Amstrad dans le jeu vidéo, c'est quand même pas rien. La console serait Wi-Fi. Et embarquerait un hardware assez léger, on imagine, parce que les jeux de l'époque sont pas très très lourds, et elle serait compatible avec le OnLive, donc permettrait de jouer aux jeux en distance.
Justement, la rumeur, il y aurait un chip dédié à la décompression vidéo en temps réel, justement pour permettre au système OnLive de
marcher sur cette bécane.
On aurait en même temps une console qui permet de jouer aux vieux jeux, aux très vieux jeux auxquels personne ne joue sauf toi.
Je pense qu'on est plus.
Et en même temps, ça permettrait de jouer justement avec un abonnement OnLive à des jeux super beaux.
C'est là où on est au stade de la rumeur et on n'est pas sûr de tout parce qu'apparemment il y aurait pas de port cartouche ou physique.
D'accord.
Ce serait un peu comme la PSP Ghost, peut-être déjà à télécharger. Et sinon, compatible OnLive. Donc ça sera donc pas avec tous les jeux OnLive, pas avec les jeux qui nécessitent la souris.
Jouer à Crysis sur la Gizmondo 2, ça va être dur.
C'est quand même une bonne nouvelle.
Apparemment, les rumeurs parlent d'une date de sortie. Fin d'année en tout cas, non ?
Ça reste vague, ouais.
Fin d'année.
On attend de savoir plus.
Là, tu vas plus penser qu'à ça. Tu vas arrêter le jeu vidéo après, hein. On est d'accord.
C'est une espèce, d'annonce qu'on attend depuis des années. Moi, Amstrad, la dernière fois que j'en ai entendu parler, je crois qu'ils faisaient des frigos ou des. Donc là, le retour dans le jeu vidéo, c'est pas rien. On attend de voir des coms
de la semaine dernière. Alors, on va commencer avec un peu le héros de la centième qui n'était pas là, mais qui s'appelle Lautrec, qui était celui qui nous avait annoncé. Donc, c'était bien la centième.
Ah oui.
Alors, il se dit désolé d'avoir pourri mon week-end parce que suite à l'annonce j'avais un petit peu stressé, désolé aussi de n'avoir pas su à l'avance que vous mijotiez, on serait peut-être passé vous voir, mes deux petits gars et moi, Antoine et Arthur. Rappelez-vous, en fait Lautrec c'est cet auditeur qui nous avait écrit il y a déjà quelques années, qui expliquait que ses deux fils en voiture, donc Antoine et Arthur, comptaient le nombre d'occurrences de mon cher Erwan dans la chronique de Monsieur Fall. C'est lui, mais avec évidemment les pseudos, tout ça, il a pas vu passer, mais peut-être qu'il pourra passer à la prochaine. Il est évidemment cordialement invité, vous êtes cordialement invités tous les trois. Alors il y a ce petit post-scriptum que j'ai beaucoup aimé, hein. Je le lis, juste une cruelle désillusion ou plutôt une grosse surprise à la suite du visionnage de la vidéo. Je connaissais déjà vos bobines pour être tombé dessus de ci de là sur le net, sauf celle de Patrick. Et pour tout vous dire, je l'imaginais, ça me fait trop rire, je l'imaginais ressemblant à Alexandre Boyon, journaliste à Stade 2. Ne me demandez pas pourquoi, je suis le premier surpris. De le voir, ça m'a fait comme à ce gamin qui, dans les années 50, en voyant au cinéma un des premiers dessins animés de Tintin, avait déclaré « C'est drôle, le capitaine Haddock, il a pas la même voix que dans mon livre ». Sauf que là, c'était l'inverse. Non, mais voilà, c'est bah, juste.
Je suis le premier désolé d'avoir déçu ce brave
non,
monsieur.
Il est surpris.
Mais s'il préfère des animateurs sportifs dans le jeu, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème.
Alors, nous avons donc deux auditeurs qui étaient présents la semaine dernière, qui sont revenus, eux, sur le sujet même de l'émission, à savoir God of War 3. Otakiron, d'abord, qui dit, pour revenir un peu sur le sujet de l'émission, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais pas celle de Zeus, mais God of War 3 ne m'a pas autant pris au trip que les deux premiers, surtout le 2. Sous sa réalisation extraordinaire, se cache un gameplay finalement très convenu et parfois même un peu ennuyeux, bien moins jouissif que les deux premiers. En tout cas, le premier opus était une vraie surprise. Le 2 lui sublimait le fond et la forme, et le 3 se contente d'être plus une tuerie visuelle qu'une vraie évolution, à croire qu'on a atteint les limites ludiques de la série.
Alors, il y a quand même un gameplay qui marche bien.
Oui, oui, mais alors je vais rappeler pour ceux qui n'auraient pas connu le 1 et le 2, qu'il existe une compilation du 1 et du 2 en HD pour la PS3. Ouais.
Qui arrive bientôt là.
Mais qui est sorti en fait, qu'on peut déjà acheter, ce que j'ai fait, pour une trentaine de dollars sur les sites américains en import. Donc ça marche très bien.
Je crois que ça sort en officiel là dans les semaines qui viennent.
D'accord. Et Dalai Lama, lui, qui va un peu plus loin, donc qui était aussi présent la semaine dernière. J'ai pu tester God of War 3 ce week-end et c'est peu de dire que je n'étais pas fan des deux premiers. Donc là, on imagine déjà que ça va pas lui plaire.
Ah, il aimait pas les deux premiers.
Ah non, il aimait pas les deux premiers. Donc après quelques heures de jeu, je n'ai rien ressenti de ce que l'on a, de ce que l'ont énoncé nos chroniqueurs favoris.
Mais quelques heures, quand
jeu,
même. Hein.
Le jeu est techniquement beau, mais le design est horrible. Les dieux genre Poséidon sont à pleurer de rire, on dirait les super-héros des années 50. Une mention spéciale.
Justement, c'est bien.
Une mention spéciale aussi pour le titan arbre avec une voix digne des Robin des Bois qui font les Bee Gees. Je finirai.
Les voix françaises sont pas
justement, il conclut en disant, je finirai par le charismatique, entre guillemets, Kratos, qui est digne d'une huître avec sa voix moisie en VO. Bordel, si Kratos est charismatique, Vin Diesel pourrait diriger le monde. Moi je dis pourquoi pas. Et moi je dis pourquoi pas. Bref, pour moi, clairement un mauvais beat'em all. J'ai rapidement lâché la manette, surtout qu'il n'apporte absolument rien.
Lâcher la
manette. En capital. Voilà. Bon, Dalai Lama n'aime pas God of War.
En fait, c'est le genre. Peut-être qu'il aime pas le genre.
Non, il dit aimer le beat'em all. En même temps, je crois que nous avons des goûts assez différents parce qu'il rajoute sur GTA 4 parce qu'il continue son poste et tout ça. Et il dit GTA 4, rien de nouveau par rapport aux autres, totalement inintéressant. Donc, je crois que définitivement, cher Dalai Lama, il y a certains jeux auxquels sur lesquels nous aurons,
et c'est bien d'en discuter justement, c'est aussi,
nous aurons une opposition de permanente, je crois. Voilà,
c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer: jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Alors, vous avez tous reconnu, évidemment, ce passage mythique de la haine de Mathieu Kassovitz. Donc, c'était il y a quelques semaines. Je pense que la plupart d'entre vous ont suivi ça. Il y a eu une espèce de gros fight sur le blog du créateur de jeu Eric Viennot, entre lui et Mathieu Kassovitz, donc, qui était venu défendre sa vision du jeu vidéo. Il avait été interviewé précédemment dans le nouvelops.com. Il avait dit qu'il était très, très intéressé. Et donc, c'est vrai que avec sa présence auprès de David Cage au lancement des V-Reign, on se disait il y a Anguille Souroche peut-être, et il y avait effectivement Anguille Souroche. Donc nous avions eu quelques informations sur à quoi ça allait ressembler. Évidemment, c'est très très vague, mais alors pour ce qu'on a en ce moment, c'est assez étonnant. Alors le projet serait déjà en cours depuis 2 ou 3 mois, donc c'était précédemment à la sortie de V-Reign chez Quantic Dream. Alors David Cage ne serait pas aux manettes, hein, parce que évidemment c'est Kassovitz. Ce serait peut-être la première fois que Quantic Dream réussirait à faire 2 jeux en parallèle. Ce serait peut-être pas plus mal.
Hein. Aujourd'hui, ils sont sur quoi, Quantic?
Alors, pour l'instant, on n'en sait rien, mais David Cage va sans doute continuer. Sauf s'il arrête le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors, le côté étonnant, en fait, donc, on revient sur cette histoire de narration, de cinéma, Mathieu Kassovitz aurait décidé d'aller encore plus loin que Cage. On avait fait évidemment beaucoup parler de l'aspect cinématographique, inspiration cinéma. Et donc, en fait, pour Kassovitz, le meilleur moyen, en fait, il reste dans cette optique très, très cinéma. Le meilleur moyen de travailler l'émotion du joueur, en fait, c'est de finalement ne pas lui laisser les commandes trop. Et en fait, le jeu qui s'appelle, alors le nom de code pour l'instant que je lise, c'est Nine Lives.
Nine Lives, ouais, neuf vies en français.
Le principe, ce serait en fait des séquences, ce serait semi-inspiré du cinéma, des séries télé et du jeu vidéo évidemment. Et en fait, ce serait des séquences cinématiques, plus ou moins, de 52 minutes.
Durant lesquelles on ne joue pas, c'est ça hein.
Voilà, durant lesquelles on ne joue pas, qui racontent une histoire, et qui serait ensuite suivi de, qu'on parle de 8 minutes de gameplay pour faire des espèces d'épisodes d'une heure.
Et on sait aujourd'hui, le gameplay sera à base de QTE comme,
Disons qu'on suppose que ça va effectivement s'inspirer de ce qu'a réussi à faire Cage dans Heavy Rain. Et donc, en fait, voilà, son discours, pour l'instant, c'est de travailler l'émotion du joueur, comme ça, pendant en filmant réellement, alors on suppose évidemment que ce sera en 3D, etc., en image de synthèse, mais en filmant, en choisissant les cadres, en faisant évoluer l'histoire comme ça pendant une certaine durée, et au moment du paroxysme de l'émotion ou du suspense ou tout ça, là donner les manettes aux joueurs pendant une courte séquence. Et
donc, on en parlait à midi justement, est-ce que ça serait plusieurs séquences donc de une heure, donc 52 minutes plus 8 minutes qui se suivraient, ou alors il y aurait des embranchements un peu à la manière de...
Alors il y a deux choses. On a quand même aussi pas mal d'infos là pour l'instant, mais bon, évidemment, on est sur un projet qui sera sans doute de plusieurs années, hein, enfin 18 mois minimum, voire 2 ans. Alors pour l'instant, on est sur évidemment, bon, la première séquence c'est 52 minutes, et ensuite, alors ils sont en train de travailler sur le fait de est-ce que les séquences de 52 minutes changent, évoluent en fonction des actions dans les 8 minutes du personnage, mais leur trame serait assez fixe. Et en fait, pour l'instant, on parle donc de 9 épisodes
dans un seul jeu.
À la fin, tout à la fin du jeu. Alors on ne sait pas combien il y aura d'épisodes qui feront le jeu, mais on parle de 9 épisodes qui là seraient complètement différents en fonction des actions du joueur tout le jeu.
D'où le titre du projet.
D'où le titre du projet. Alors voilà. Donc ça, bon, on s'en doutait. Hein, on s'en doutait évidemment après les sorties de Kassovitz sur le jeu. Donc prévu sur PS3. Hein, donc évidemment, on est exclu Sony. Donc qu'est-ce que t'en penses
moi, pas grand-chose. Enfin, comme d'habitude, je suis assez circonspect à voir, parce que c'est vrai que les séries, ça marche plutôt bien. Le concept de 52 minutes, pourquoi pas. On sait qu'on a une heure devant nous pour jouer, donc pourquoi pas. Maintenant, que 8 minutes de gameplay à la fin, que 8 minutes en QTE, ça fait, on s'éloigne encore plus du jeu vidéo, mais ceci dit, ça peut être, moi je suis...
Bon, on voit quand même que c'est vraiment la position assez radicale d'un cinéaste.
Ouais.
Alors le truc qui est un peu décevant, il veut vraiment pas quitter son univers qu'il connaît du cinéma, de la mise en scène classique. Après, reste à voir. C'est vrai que l'idée est tellement.
Mais ceci dit, Heavy Rain a quand même plu à beaucoup de gens, dont je fais pas vraiment forcément partie. Donc pourquoi pas, ça peut marcher aussi auprès du grand public.
Alors moi, ce qui m'intéresse, alors d'une part, ça me fait évidemment. Ça me fait le même trip que Heavy Rain ou Fahrenheit. C'est-à-dire que je me retrouve avec un projet devant les yeux, je sais tellement pas à quoi ça va ressembler que je me dis, putain, au moment où ça sortira dans les bacs, pourquoi pas, quoi. Je sens que j'aurais envie d'y jouer. Je sens qu'on va voir des images venir, une bande-annonce, machin, tout ça. Et je sens que j'aurais envie d'y jouer, même si là, pour l'instant, quand on m'a expliqué le projet, j'ai crié au scandale, quoi.
À voir si ça va pas être mixé. On n'a pas parlé en ce moment de transmédia, etc., de d'histoire en fait qu'on voit à la fois dans le jeu vidéo, sur internet, en série, etc. À voir si justement ça peut être aussi une pierre angulaire d'un projet transmédia avec peut-être une série à côté ou autre chose. Là, ça pourrait être plus intéressant peut-être.
Non, c'est clair. En tout cas, ça reste un peu dans la même veine. On vous en parlera quand on aura plus d'informations. Hein. Pour l'instant, on en est au stade des premiers préparatifs je pense que c'est le stade de la pré-production. Donc, c'est les idées qui fusent et tout ça. Mais enfin, en tout cas, on se dirige vers ça. Voilà, le projet Nine Lives chez Quantic Dream.
Once, he belonged to a noble brotherhood. 33 Protectors. 84 families, hundreds of years of tradition.
Until they banished him for a crime he did not commit.
Oh my God. I never thought we'd see you again. Not after what the clan did.
At long last, he returned home.
Cut him up! Help me! Get him!
And found his town under siege.
I think he's still alive!
Not for long!
Et voilà, donc oui, ça se termine un petit peu. Ouh,
c'est abrupt.
Ah ouais, c'est abrupt la fin. Red Steel 2 sur la Wii, la suite du jeu d'Ubisoft sur.
Qu'on avait bien aimé tous les deux. On avait eu des discussions.
Ouais, je crois qu'on était les deux seuls.
Oui, voilà. En tout cas autour de cette table.
Ouais, mais même ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens.
Il
qui
a eu
ont vraiment
des critiques assez difficiles.
Ah ouais,
c'est
ouais,
vrai
non,
que pour le lancement de la Wii, c'était plutôt pas mal.
Bah oui, mais moi j'avais fini.
Non, pareil. Non, c'était pas plutôt pas mal.
J'étais bien rentré dedans. Alors bizarrement, mais en même temps, je suis assez peu apte à le défendre, alors parce que j'explique pas trop pourquoi j'étais rentré dedans, il y avait tellement de problèmes, il y avait notamment cette espèce de bug insupportable, c'est-à-dire que si on ne coupait pas le son de sa Wiimote, elle partait en vrille dans à certains passages, on perdait le pointeur, enfin ouais.
En même temps, c'était le premier FPS de la console, ça date maintenant d'il y a quelques années.
Donc c'est vrai qu'on avait, après la sortie de Red Steel, on avait eu des informations, il y avait un Red Steel 2 en préparation, ensuite Red Steel 2 avait été annulé, avait été repris à zéro, parce que ça fait partie de ces projets chez Ubisoft, où on se rend compte qu'on est parti dans la mauvaise direction, bam, on coupe tout. Et donc là, rupture totale avec
enfin,
le premier.
On garde l'essentiel, on garde le FP, l'idée du FPS avec.
Alors Patrick,
le sabre et les armes à feu.
Qu'en as-tu donc pensé?
Et ben moi j'ai bien aimé. Alors j'ai eu j'ai eu des premières minutes de jeu. J'ai pas trop accroché au début. J'ai trouvé que c'était un petit peu plat au niveau du gameplay au début. Et plus j'ai joué, plus j'ai avancé. Et j'ai trouvé que le jeu s'enrichissait vraiment. Sur la durée, c'est-à-dire qu'on acquiert pas mal de pouvoirs, etc. Pour resituer, on est dans un univers
pouvoir,
qui est,
c'est quoi, c'est
des coups spéciaux, on améliore ses armes, etc. Pour resituer, on est dans un univers bien barré, à mi-chemin entre le western et le film de samouraï. Moi, ça m'a rappelé un de mes jeux cultes de l'époque de la PS1 qui s'appelait Rising Zan. Je sais pas si vous aviez connu ce jeu qui était avec un univers comme ça un peu barré, avec un espèce de samouraï en plein western. Donc on retrouvait, et là voilà, on retrouve cet univers complètement Azimuté, qui est plutôt sympathique. Graphiquement, le jeu a un bon parti pris, je pense, pour la bécane.
Le cel shading.
Le cel shading, et ça marche bien. Il y a un petit côté 13, vous rappelez de 13 d'Ubisoft aussi, il y a quelques années. On retrouve ce côté, graphiquement plutôt bien adapté à la console.
Et surtout, ça permet de pas avoir des graphismes qui font mal aux yeux.
Et voilà, là, c'est plutôt bien fait. Et je trouve que le jeu vraiment s'apprécie sur la durée. Je pense qu'il faut vraiment le pratiquer sur la durée. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Arwan,
tout à fait. Alors, en fait, moi, je suis assez décontenancé, on va dire, par Red Steel 2. J'y ai joué assez longtemps. Je suis arrivé assez loin et j'arrive pas. J'arrive pas à savoir vraiment ce que j'en pense parce que c'est une espèce de suite de choses qui m'énervent, notamment, enfin pas qui m'énervent, mais qui où je me sens un peu à l'étroit en fait. Je me sens à l'étroit dans Red Steel 2 parce que
niveaux, tu veux dire le level design.
Les niveaux de jeu sont un hyper classique,
ouais,
c'est-à-dire
clair,
et deux hyper restreints, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des espèces de temps de chargement déguisés en ouverture de porte. C'est assez malin, mais c'est assez classique. Et là, on arrive dans une zone et puis on a envie, comme dans les jeux d'aujourd'hui, une fois qu'on a un temps de téléchargement, d'arriver dans une grande zone où on peut se balader, aller ouvrir des portes, aller dans des pièces, etc.
Là, c'est assez linéaire.
Et là, c'est d'une part, c'est assez linéaire et puis c'est assez triqué. On est dans des lieux assez fermés. Même quand on est à l'intérieur dans les rues d'une ville, et ben en fait la rue elle fait 25 mètres de long maximum, et donc on se retrouve un petit peu enfermé. Après, sur l'ambiance, je rentre pas trop dedans parce que en fait ce qui me dérange, c'est qu'il y a Mad World qui est passé avant sur l'ambiance, et ce côté gang un peu loufdingue, un peu fou, violent, etc. Mais Mad World avait réussi à le faire d'une manière brillante, un peu gore, enfin avec une patte graphique
et outrancière
exubérante. Il manque de cette exubérance là dans Red Steel 2.
Il y a des choses amusantes, mais par exemple le cassage de caisses qu'on fait pendant tout le jeu. Au début, ça m'a saoulé, et puis finalement, tu prends l'habitude. C'est vraiment c'est un cliché du jeu vidéo.
Ouais, c'est, alors ça,
alors au début, tu dis bon,
Je me suis dit que ça devait être un truc assumé, mais moi, j'ai
je pense que c'est assumé. Moi, je le vois comme ça. Quoi qu'on casse, on récupère des crédits, etc.
Alors, moi, j'y ai pas joué, parce que je l'ai pas reçu à temps. Mais alors, j'avais une question, justement, d'après ce que j'ai compris, il faut absolument avoir le
Wii Motion Plus, c'est obligatoire.
Si on n'a pas Wii Motion Plus, ça marche pas.
Exactement.
Non, ça marche pas.
Et là, en fait, la promesse qu'on avait à l'époque du premier Red Steel, on la retrouve plus aujourd'hui, avec vraiment plus un dosage des coups. Et ça, on le voit plus en avant. Au début, c'est pas forcément évident, je trouve, au début du jeu. Et plus on avance, plus on a
des combos.
On a des combos, des coups
c'est
spéciaux.
C'est un dosage des coups, mais ça retranscrit pas exactement ce qu'on fait avec.
Selon l'amplitude des mouvements, etc.
Il y a quand même des différences d'amplitude. Il y a un temps de réponse qui n'a rien à voir, le temps de réponse
avec
des mouvements.
Le jeu,
on a vraiment l'impression de
faire. Puis on peut vraiment choisir les coups qu'on donne.
Par exemple, si tu fais un Z comme Zoro, ça va pas faire un Z à l'écran.
Mais il y a une vraie différence et qui est très repérée, par exemple, entre le coup des stocks, donc en avant, le coup à l'horizontale, le coup vertical, le coup de biais. Et ça, quand tu fais le geste, ça se voit bien. Évidemment, si tu fais des 8, ton épée, elle fait pas des 8, parce que ton Cowboy Samurai.
D'ailleurs, pareil, je sais pas si t'as remarqué, le début du jeu est très facile, c'est-à-dire qu'on avance vraiment, on avance, et plus les niveaux s'enfilent et plus les ennemis commencent à être de plus en plus coriaces.
Alors voilà, moi c'est là où j'ai eu du mal à me positionner par rapport à ce jeu-là, c'est que il y a plein de trucs qui m'énervent, qui m'énervent parce que je suis pas énervé,
mais qui font cliché,
pas,
qui font un peu cliché,
qui font un peu où je sens un peu à l'étroit, machin, et en même temps
le gameplay est réussi, il marche bien,
mais les systèmes, les enchaînements de phases de combat, etc., qui sont assez physiques.
On peut sauter, prendre les ennemis, les balancer,
à partir du moment où tu commences à avoir quelques combos avec l'épée que tu récupères assez vite dans le jeu, t'as quand même des combos assez rigolotes. On est en FPS, donc en plus ça rend le truc assez marrant, où on envoie un ennemi en l'air, on fait un petit mouvement et hop, on se retrouve en l'air avec lui
et on
le tabasse.
Et là, et c'est assez physique. Moi, j'ai trouvé que c'était assez physique les parties parce que on bourrine vraiment avec la Wiimote dans tous les sens.
Alors moi, c'est assez marrant parce que des fois, je suis obligé de me lever, pour pas taper ma copine déjà qui est à côté, ou éviter de tout renverser sur la table basse parce que
j'ai fait tomber 2-3 trucs chez moi comme ça.
Lors des combats, c'est assez chaud, hein. Donc voilà. Et donc voilà, je continue, je m'amuse vraiment, mais c'est une espèce de collection de trucs qui me chagrine et notamment j'arrive pas, enfin alors peut-être le premier Red Steel c'est con, hein, c'était pas une histoire gigantesque, mais on était dans
scénario,
dans le contemporain, dans l'histoire de Yakuza, dans la mafia, etc., et moi je trouvais ça plutôt sympa, plutôt rigolo. Et là l'histoire c'est des guerres de gangs de samouraïs dans le western, dans un western cyberpunk.
Mais par contre il y a un jeu sur tout ça, sur les musiques qui font très aussi référence
à des univers cinéma, etc., c'est
pas mal ça.
Il y a des suites de demi-échecs, genre le héros qui est censé être héros un peu, comment on dit en anglais, badass, le mec qui assure avec son cache, on voit pas sa bouche, on voit que ses yeux, le cowboy mystérieux samouraï et tout ça, complètement sans intérêt.
Il a pas de profondeur,
et des choix hyper bizarres, c'est-à-dire qu'il dit une phrase toutes les 2 heures. C'est-à-dire qu'ils auraient dû en faire un quelqu'un de muet, quoi. Enfin, ça aurait été quand même plus efficace, hein. Mais il sort des phrases qu'on sait pas pourquoi. D'ailleurs, l'acteur qui a doublé le héros doit pas avoir beaucoup de travail, hein. Mais voilà, j'ai vraiment un peu de mal à me situer.
Mais c'est vrai qu'on prend plaisir à jouer.
Enfin, apparemment, toi plus qu'Erwal, en tout cas.
Je prends plaisir parce que
sur la durée.
Les combos, en plus, ce qui est marrant, c'est que le système de combos, moi, je suis assez naze en combos dans les jeux vidéo, hein. J'ai une tendance toujours à tapoter les boutons, à aimer des combos qui demandent 2 boutons,
on arrive à
les apprendre vraiment. C'est des combos de mouvement, c'est-à-dire c'est appuyer 2 fois sur A et aller vers l'avant,
un entraînement où on les apprend, etc.
Faire avancer le nunchuk et la Wiimote en même temps, enfin voilà, il y a des combos comme ça et qu'on apprend et qu'on intègre, parce qu'il y en a pas tout le temps, enfin il y en a pas tant que ça, et ils arrivent après une certaine durée de jeu, donc on a le temps de les apprendre, de les assimiler, et finalement on se retrouve au bout d'un certain moment à vraiment enchaîner les combos,
à buter les ennemis.
Les phases de combat m'amusent, mais le reste je suis un peu plus dubitatif. Alors c'est pour ça, en fait, ce que j'ai du mal, c'est à conseiller à nos auditeurs de l'acheter ou pas. Et ben j'en sais rien, quoi, parce que je sais que moi je m'éclate et que je le finirai très très certainement, mais voilà, là c'est le genre de truc où je sens que je suis pas très objectif. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mm-hmm. mais c'est pas.
Ouais, évident. Voilà, comme je te disais, j'ai bien accroché à l'univers un petit peu barré, qui que j'ai trouvé rigolo et très série B en fait au niveau de l'univers. Des
c'est une quarantaine d'euros ou 50, c'est ça?
Oui, ça dépend si on prend l'accessoire avec. Je crois qu'il est vendu seul ou avec l'accessoire. Moi, je trouve qu'il est, franchement, il est assez sympa, vraiment. Enfin.
Oh oui, non, mais c'est.
Bah, j'avais très peur par contre du système de lock sur un ennemi. Je trouve que c'est pas mal aussi, parce que ça pouvait aussi être.
Moi, j'aime beaucoup les systèmes d'esquive où on tourne autour des
ennemis. Ouais, avec le bouton A.
C'est assez facile.
On peut esquiver facilement. Et ça, enfin, voilà, c'est agréable à jouer. Vraiment.
Ouais, agréable à jouer. Red Steel 2 Ubisoft sur la Wii avec la Wii Motion Plus. Et ben, on va accueillir maintenant Monsieur Fall, qui n'est malheureusement, on s'habituerait trop vite, hein, à Monsieur Fall, qui n'est plus dans nos studios, mais qui est de retour chez lui, dans les locaux de TrickTrack.net, et qui nous fait le plaisir de nous donner sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Vous n'êtes pas sans savoir forcément qu'il existe ce que l'on appelle des licences, et dans le monde du jeu de société aussi, on se retrouve avec des jeux adaptés de séries télé ou de films sortis au cinéma. Eh bien, il existe aussi, mon cher Erwan, des adaptations de romans, et c'est le cas de Les Piliers de la Terre, adapté du roman éponyme signé Ken Follett, un roman à succès s'il en est. Eh bien, mon cher Erwan, non, je ne vais pas vous parler de Les Piliers de la Terre, car c'est un jeu sorti il y a à peu près un an et demi, voire deux ans. Non, je vais vous parler de sa suite, Un Monde Sans Fin, qui vient juste d'arriver là maintenant, sur les étals, en français total et complet, grâce à Philosophia qui l'a traduit et qui le met à notre disposition. Alors, Un Monde Sans Fin est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des durées d'à peu près 2 heures. C'est un jeu, et je sais que vous l'avez compris maintenant, un jeu dit à l'allemande. Et là, mon cher Erwan, rien qu'à l'odeur de la boîte, on sait que Michael Reineck et Stefan Stadler nous ont pondu un pur jeu à l'allemande. Vous allez trouver dans la boîte des pions ressources, des cartes avec des choses écrites dessus, de la stratégie, des points de victoire. Vous allez trouver, bref, tout ce qui fait un excellent jeu. Et là, je n'hésite pas à le dire, autant Les Piliers de la Terre m'avait ennuyé, autant Un Monde Sans Fin m'a charmé. Alors, au niveau du thème et de la mécanique, c'est simple, nous sommes en Angleterre au 14e siècle, le plateau représente une bourgade et vous allez devoir participer à la construction de cette bourgade en étant à la fois pieux et loyal. Vous allez même, comme cela est amusant, tenter d'éradiquer la peste. Comme c'est un jeu à l'allemande, il va vous falloir gérer des ressources, trouver de la nourriture pour nourrir vos ouailles, des points de piété pour éviter les foudres divines, de l'argent pour montrer à votre roi que vous l'appréciez énormément. Et la cerise sur le gâteau, mon cher Erwan, c'est qu'il va falloir gérer toutes les catastrophes qui vous tombent sur le coin de la tête, car la vie n'est pas facile au 14e siècle. Alors d'habitude, mes camarades et moi détestons les jeux avec du hasard, en tout cas avec beaucoup, beaucoup de hasard, c'est-à-dire les jeux où vous réfléchissez pendant 2 plombes et une carte retournée vous fout tout en l'air. Eh bien là, j'ose le dire, c'est ce qui fait quasiment le sel du jeu, c'est ce qui fait que les situations vont se retourner, qu'il va falloir réfléchir à nouveau en essayant d'être le plus fin possible, le plus optimisateur possible. Je vous le dis, mon cher Erwan, Un Monde Sans Fin est le jeu qu'il faut avoir actuellement. Un jeu signé Michael Reiner et Stefan Stadler, édité par Philosopher en français. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 2 heures. Vous allez le trouver aux alentours de 45€, mais ça vaut le coup, mon cher Erwan. Si vous voulez faire chauffer vos neurones et prendre beaucoup de plaisir à la fois avec un thème fort et une mécanique très très subtile et très intéressante, je vous conseille Un Monde Sans Fin, mon cher Erwan. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Là, je sais pas, Antoine et Arthur, il faudra me dire combien il a sorti de mon cher Erwan. C'est un record, je pense. Donc, Un Monde Sans Fin. Le retour de la minute culturelle. Alors, en fait, Patrick, le truc, ouais, bon, mais, s'il vous plaît, ouais. Ouais, quand même. Tu m'as un peu pourri ma première question parce que en fait.
À quel sujet?
Parce que j'ai été obligé de la préciser. Donc c'est la première question. C'est une minute culturelle spéciale samouraï. Ah ouais. Quel autre jeu? Donc j'ai obligé de préciser, sorti sur PlayStation 2 en 2005, a mêlé univers western et samouraï. Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, mais tu en as
c'est
sorti.
C'est World of Samurai. Non, 2005.
Je ne connais que celui-là.
Clément, il est proche, mais. J'aurais pas de quel autre jeu donc à mêler les univers western et samouraï.
Ouais, je sais. Je le sais en plus.
Moi aussi je le sais.
C'est super énervant. C'est super énervant parce que c'est un. Ouais, je connais.
J'avais passé celui-là.
Et donc en fait il s'agit d'un.
Un jeu Capcom.
D'un spin-off de la série Way of the Samurai des studios japonais Acquired. Donc, c'est un spin-off.
Et comment il s'appelle alors?
Il s'appelle Samurai Western.
Samurai Western.
Ah ben non, je connais pas. Franchement, je connais pas.
Mais qui était pas fameux.
Il était pas fameux du tout. Donc c'est un spécial samurai. Quel samurai apparaît dans 2 séries de jeux distinctes?
Quel samurai?
Deux grandes séries de jeux.
Il faut le nom du samouraï en question.
Le nom du samouraï.
Son prénom, son nom de famille.
Ouais, son nom.
Un samouraï ou un ninja? Attention, c'est pas la même chose.
Un samouraï.
Mitsurugi? Non.
Non.
Mitsurugi.
Ouais. Et mais alors là, indice, tu n'es vraiment pas loin.
Bah c'est oui, bah c'est dedans. Alors c'est qui?
C'est-à-dire
ah,
que
c'est Taki. Non, c'est
la série. Les deux séries sont produites par Namco.
Mais c'est. Je sais plus.
C'est Yoshimitsu.
Ah, c'est Yoshimitsu.
Apparaît
ouais,
dans
c'est pas
Tekken et Soul Calibur. Ouais. Et voilà, les deux séries de Capcom.
C'est celle qu'on devait trouver, ça.
Ouais, voilà, c'est celle que vous devez trouver. Alors, en fait, moi, le truc qui m'a intrigué, c'est Yoshimitsu. J'ai toujours pensé qu'il y avait une inspiration historique. Voilà, alors, j'en ai pas fait une question, hein, parce que c'était là, pour le coup, c'était forcément introuvable. Mais j'ai pas trouvé de confirmation. Par contre, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait eu, entre 1045 et 1127 au Japon, un monsieur qui s'appelait Minamoto no Yoshimitsu, sachant qu'il y a un autre Yoshimitsu, mais qui était shogun. Donc,
ah oui, donc c'est
mais a priori, c'était pas lui, et donc, mais lui plutôt au 14e siècle. Et entre 1045 et 1127, il y avait un, donc un Minamoto no Yoshimitsu, et qui était le frère du très célèbre Minamoto no Yoshii. Bon, bref, hein. Ouais. Et en fait, il était connu donc pour disséquer le corps des hommes tombés à la guerre, pour les étudier et pour apprendre quels étaient les points vitaux. Et en fait, donc, pour améliorer sa technique de combat, pour repérer les points vitaux, il disséquait.
Un hobby comme un autre, hein, il faut bien s'occuper.
Et donc, en fait, j'ai réussi à trouver nulle part si c'était effectivement lui. Mais donc, a priori, donc, là, c'est.
Parce que dans les jeux, il est quand même spécial, Yoshimitsu.
Ouais, ouais,
un drôle de look, hein.
Et en fait, bon, évidemment, là, c'est du Wikipédia, hein. Et il aurait transmis jusqu'au 19e siècle ses techniques de combat au clan Takeda. Voilà.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si c'est l'inspiration réelle de Yoshimitsu, mais je n'ai pas trouvé confirmation, mais il y a eu un jeu. Bon, bref, troisième question. Quel jeu officiellement inspiré des 7 samouraïs de Kurosawa a vu le jour en 2004 sur PS2 avec rien moins que Moebius au concept art des personnages et Ryushi Sakamoto, c'est-à-dire le musicien du dernier empereur à la musique, et pourtant, avec tout ça, qui s'est révélé n'être qu'une sombre bouse.
Une grosse merde, ouais.
Voilà.
Ça me dit quelque chose.
C'est quand même dingue. Hein, faire.
C'est quelle année? C'était 2001
2004.
2004.
Et en fait, qui était fait pourtant pour un studio sérieux, hein, qui était le studio DIMS, qui était responsable de Dragon Ball Z Budokai. Donc voilà, il y avait un machin. Et voilà. Et donc c'était Seven Samurai 2000XX.
Ah oui, c'est 2000XX qui était
voilà, qui était pas bon et pourtant il y avait du
sacré
du beau monde, hein, donc voilà. Ah oui, et par ailleurs, c'était pas dans le com des coms, mais il y a eu le compte, hein, finalement, donc nous avons 9 pour Patrick, 3,000001 pour Clément,
ah, c'est
et
pas mal,
un
c'est
point pas mal. Un point pour Joël Mézou.
Ah oui,
et
Joël, ah oui,
voilà. Et zéro pour moi, parce que ça m'arrive d'avoir à répondre, mais finalement, je ne marque jamais rien. Alors, ce que vous entendez, ça vient du DLC de Modern Warfare 2, dont je n'ai ni le nom, ni la date de sortie. Enfin, j'en sais rien, en fait, je m'en fous, hein. Mais c'était pour illustrer le sujet qui arrive. C'est nos amis Helvète qui ont fait n'importe quoi, en fait. Hein.
Qui veulent interdire le jeu vidéo violent. Voilà. Les Suisses veulent interdire le jeu vidéo violent. Alors voilà, il y a rien que dans l'intitulé, il y a plein de questionnements. Alors j'ai un article de écran.fr que vous devez connaître tous les
ouais,
deux.
Ouais, un très très bon site.
Donc voilà, qui dit que le Conseil des États, équivalent du Sénat en France, vient d'adopter deux motions visant à interdire les jeux vidéo violents entre guillemets. Cette décision radicale fait suite à celle du Conseil national, chambre de haute Suisse, datée de juin dernier et qui allait dans le même sens.
Voilà, donc
pour moi la vraie interrogation, c'est évidemment, on se pose la question, c'est quoi un jeu vidéo violent exactement?
Eh ben en fait, alors le truc c'est que eux le savent pas non plus, quoi.
C'est quand même.
C'est qu'ils le savent pas.
Est-ce qu'on se base sur un PEGI, sur un classement PEGI, sur est-ce que c'est arbitraire? Enfin voilà, c'est un peu le questionnement.
C'est très très étonnant. Alors en fait,
c'est pas adulte, hein, c'est violent.
Et surtout,
jeu vidéo violent.
Et surtout, ce n'est pas une interdiction de vente aux mineurs, c'est une interdiction totale. On est en pleine science-fiction parce que
effectivement, si on regarde les jeux vidéo en vente qui ont la pastille violence, PEGI, il y en a plein à partir de 12 ans.
C'est quand même dingue parce qu'on a mis en place des indicateurs comme le PEGI justement pour informer les consommateurs du contenu des jeux et aller vers une interdiction d'une catégorie, enfin c'est
pour être plus précis, c'est en route vers parce que
c'est pas encore fait, ils ont adopté
un texte qui permet à l'exécutif suisse de d'appliquer la loi, mais en fait elle n'est pas encore appliquée. Évidemment, il y a des réactions. Electronic Arts, dans le temps, cette censure démontre que les politiciens ne comprennent ni notre industrie ni les consommateurs. Bon, là, ça reste la réaction un peu lobby, un peu corporate, etc. Ce que j'aime beaucoup plus, c'est la réaction là pour le coup du vice-président des jeunes libéraux radicaux suisses, qui a traité les sénateurs de has-been et de complètement givrés. Voilà, ce qui est plus proche de la réalité.
On interdit les jeux vidéo violents, on peut interdire le cinéma violent aussi, et puis les romans aussi, ou
les romans violents.
Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que en fait les sénateurs suisses, enfin les équivalents des sénateurs suisses, le conseil des États, ils avouent que ils n'ont aucune donnée scientifique pour corroborer cette loi, pour la renforcer, etc. C'est-à-dire que en fait ils ont une intuition. Oh bah oui, quand même, des jeux vidéo violents, c'est pas possible que ça n'aboutisse pas à la violence.
Et donc c'est vraiment une interdiction totale de vente sur le marché.
Alors oui, c'est de la proposition, je le répète, ils sont pas...
les éditeurs doivent s'en foutre un peu, le marché helvète est quand même hyper limité.
Tu t'en fous jamais, d'une part, parce que c'est quand même un marché de plusieurs millions de personnes, quand même,
c'est vrai qu'ils ont des sous.
Et surtout, c'est tellement ridicule. Alors c'est assez marrant parce que donc dans le même temps sur les forums de Science on Joue c'est lancé un grand débat sur les jeux violents qui est d'ailleurs débat lui-même assez violent
parce que ce sont des gens qui eux-mêmes jouent aux jeux violents
et donc on va l'interdire le débat. Il est un peu trop violent.
On va interdire le débat sur les jeux violents. Mais c'est vrai que il y a quelque chose. Alors moi ça me rappelle un livre peut-être que j'ai déjà parlé en fin d'émission qui s'appelle Le petit cours d'autodéfense intellectuelle du Québécois Norman Baillargeon que je vous conseille à tous parce que c'est vraiment un livre à lire. Et en fait il y a tout un passage très intéressant sur ce petit cours d'autodéfense intellectuelle qui dit une des premières choses dont il faut se méfier, c'est son expérience personnelle, c'est son ressenti personnel, parce que en se basant sur sa propre expérience, on arrive souvent à des conclusions biaisées. C'est-à-dire que finalement, sa propre expérience, on réduit son champ d'investigation à sa propre expérience, on n'est pas grand-chose. Et donc, on est vite arrivé à donner des conclusions à la con, genre les jeux vidéo violents rendent violents. Parce que on a joué à des jeux vidéo violents, donc on se dit, si on donne ça aux enfants, ça va être n'importe quoi. On a des intuitions, il y a des intuitions basées sur l'expérience personnelle. Et c'est la première chose dont il faut se méfier, parce qu'il ne faut pas arriver à des conclusions allant sur n'importe quoi sur ces genres de choses. D'ailleurs, il y a des études sur la violence dans les jeux vidéo. Alors après, il y a des foultitudes d'études qui vont dans tous les sens. Mais il y a par exemple des études qui arrivent à la conclusion que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo violents sont moins violents que les autres, sont plus sociables.
L'effet cathartique.
Qui sont pas plus validés sans doute qu'autre chose. On reste quand même dans le domaine du fantasme, du faux bon sens populaire. Parce que ça ne rime à rien. Puis de toute façon, en fait, c'était comme le débat sur la cyberdépendance qui a abouti au célèbre Meuporg de la semaine dernière, où ils expliquaient bien que le plus important, c'est si vous avez des enfants qui jouent à des jeux comme ça, des jeux vidéo régulièrement, c'est de s'asseoir à côté d'eux et de leur demander de raconter ce à quoi ils jouent. Et généralement, ça sert énormément à éviter tout de partir dans des fantasmes de ce genre-là. Bref, moi, je parle beaucoup, en fait.
C'est pas mal.
Non, je suis parti dans un monologue là, un espèce de tunnel. Vous m'avez pas arrêté. Vous auriez dû.
Tu en es sorti. Tout va bien.
Autre chose, je crois qu'en Suisse, de toute façon, c'est pas encore voté. On l'a dit. blabla, et ils ne savent pas ce que c'est un jeu vidéo violent. Donc le problème, c'est bien
le
ça.
Le problème, c'est ouais,
c'est ouais. Un peu ça. On a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Moi, je fais pas mal de choses. Alors déjà avec vous, j'ai découvert le jeu vidéo, mais le jeu de société Loup-Garou,
et oui.
Qui était bien chouette.
De Tiercelieu.
Donc voilà. Grâce à Monsieur Fall qui au fur et à mesure voilà met dans ma tête des idées de jouer aux jeux non vidéo. Donc
mais moi dans cette soirée j'étais vachement trop loup-garou, ce qui fait qu'à
et
la
moi,
fin
pas
en
assez,
fait
pas assez,
à
hein.
La fin je me faisais éliminer par principe, c'est-à-dire que des loup-garous villageois je m'en fous.
Mais on t'aimait pas.
Ouais, c'est parce que j'ai tué aussi.
On t'aimait pas.
Voilà.
Et sinon voilà, je suis passé au salon du livre aussi qui était plutôt chouette, même si j'étais étonné de pas avoir du tout. Enfin on était encore très dans le bouquin classique, très peu de d'e-books ou très peu de. On a l'impression que les éditeurs français sont assez frileux là-dessus, ils savent pas où ils vont. Donc voilà, ça c'était la petite expérience. Et surtout, donc j'ai découvert ce bouquin qui est en fait une BD de Riyad Satouf. Alors Riyad Satouf, il s'est notamment illustré avec le film Les Beaux Gosses ou avec la
oui,
BD Pascal Brutal.
C'est un dessinateur régulier de Charlie Hebdo aussi.
Tout à fait. Et donc j'ai découvert, c'est sorti il y a quelques années déjà, mais je ne connaissais pas. Donc c'est Retour au collège. Donc c'est Riyad Satouf qui à l'époque avait 27 ans, qui était traumatisé par ses années de collège, décide en fait de retourner dans une classe de troisième, mais pas n'importe où, il va chez les riches. Donc il va dans une classe de troisième, et en fait il relate donc dans cette BD, donc il change les noms et les gueules des personnes, mais sinon il relate vraiment ce qu'il a vécu au collège. C'est très très drôle, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, et donc je conseille à tout le monde.
C'était Riyad Satouf étant excellent auteur.
Retour au collège.
Classique, ça. Hein.
C'était c'est devenu sa BD qui est rentrée vraiment dans les classiques. Retour au collège. Patrick.
Ouais, alors moi je me suis replongé dans des bons vieux polars à la française des années 80 cette semaine. J'ai revu Ronde de nuit qui vient de ressortir en DVD. Ronde de nuit avec Eddie Mitchell et Lanvin. Qui joue les deux flics. Et quand même un personnage de tueuse qui a inspiré le personnage de Grace Jones dans Dangereusement Vôtre. Quand même, c'est pas rien, il faut le préciser.
Ouais.
Et j'ai revu aussi sur le câble la balance de 82, je crois, 83, je sais pas si vous vous rappelez, avec un Philippe Léotard hallucinant dedans, il est juste hallucinant.
Ah ouais. Tu me laisses sans voix là.
Mais je te les passerai si tu veux.
Non, merci. Moi pour ma part, j'ai fini Pigalle la nuit, série.
Toi aussi, toi t'es dans les polars.
Je suis dans les polars,
plus actuel quand même.
Voilà, plus actuel. Franchement, j'en avais déjà entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je me suis un peu lancé dedans. C'est 8 épisodes, je crois, et donc passé sur Canal+ il y a déjà
quelques mois.
Très très bonne surprise, même si j'en attendais du bien vu que j'avais eu des bons échos. Là franchement c'est
Il paraît que c'est largement au-dessus de l'autre
De Braco, que je n'ai pas vu. Celui-là du coup j'ai moins envie de le voir parce que les échos sont moins bons. Là franchement au niveau des acteurs, des personnages, de l'histoire, c'est pratiquement un sans faute. J'ai même eu peur à la fin. Alors j'ai évidemment pas spoilé tout ça, mais on a peur quand arrivent les derniers épisodes. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Parce que on sait pas, et finalement ça tient bien jusqu'à la fin. Il y a quelques passages un peu bizarres, mais franchement très très bonne surprise, de très très bons acteurs surtout, hein. Là-dessus ça vient, et c'est ce que j'ai vu de mieux en production, en série produite en France de tous les temps, de toute façon.
Tout simplement
Médecin de nuit, tout ça quand même.
Pardon Patrick, mais bon voilà, Pigalle la nuit, c'est sorti en coffret DVD. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Libé Labo.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.